L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère. Et on va vraiment plonger aujourd'hui avec l'invité du LEM, la première partie qu'on peut aussi réécouter ce soir à 18h et demain à 8h30. Aujourd'hui, c'est science, comme souvent le mardi. Et aujourd'hui, on s'en va assez loin du Finistère, mais avec un chercheur de chez nous, Thibaut Barrère, qui est géophysicien marin au CNRS, au laboratoire Géo-Océan, qui regroupe les scientifiques du CNRS, de l'IFREMER, de l'UBO et aussi de l'UBS, Université de Bretagne Sud. Il y a quelques temps, il naviguait sur l'océan Pacifique, pas tout seul, avec une équipe de recherche du Woods Hole Oceanographic Institution, le WOI, je ne sais pas si je prononce bien. Cette équipe a découvert cinq nouvelles cheminées hydrothermales inconnues jusqu'à présent. Or, les cheminées hydrothermales ont un rôle très important et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Thibaut Barrère. Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, on va commencer tout simplement par qu'est-ce qu'une cheminée hydrothermale ?
Alors, une cheminée hydrothermale, il faut l'imaginer vraiment comme une cheminée, donc un monticule quelques mètres, voire 5 mètres de diamètre et qui peut atteindre même 11 à 12 mètres de haut, sur lequel on aurait ces cheminées, donc comme ces tuyaux, qui crachent des fumées noires, très chaudes, qui peuvent aussi parfois être blanches. Donc voilà, c'est pour que tout le monde ait un peu une idée de ce dont on parle.
Et la matière, ça ressemble à un petit volcan, c'est ça en
Ça fait. Ressemble, oui, voilà, à des, vraiment à des sources chaudes qui sont crachées de ces cheminées. La matière, ce sont des minéraux. En fait, ce fluide noir très chaud est chargé en éléments qu'on peut imaginer comme du cuivre, des métaux ou autres. Et au contact de l'eau de mer, en fait, ce fluide va se refroidir. Il va passer, on va dire, de 350 degrés à 2 degrés. Et du coup, il va précipiter. Ah. Et il va former ces monticules et ces cheminées.
Et donc, 350 degrés, voilà, c'est une température moyenne pour la sortie de l'eau. Enfin, de l'eau, c'est pas que de l'eau, du liquide, on va dire.
Voilà, donc c'est une température moyenne. Ça peut atteindre jusqu'à 390 degrés et ça peut être aussi moins chaud. Donc, en fait, on considère une sortie hydrothermale dès que l'eau est plus chaude que l'eau environnante de l'eau de mer. Donc, ça va dépendre de la pression, donc oui, à quelle profondeur on est. Ouais. Et ça va aussi dépendre de la localisation de ces sources. Si on est vraiment au-dessus d'un volcan ou si on est au-dessus d'autres sources de chaleur, on va dire un peu moins chaudes.
Mais c'est toujours lié à du volcanisme, la formation d'une cheminée hydrothermale ?
Alors, c'est toujours lié, oui, à une source de chaleur. La plupart du temps, à du volcanisme, donc sur ces dorsales océaniques. Hein. Donc, une dorsale océanique, c'est la plus grande chaîne de montagnes volcaniques sur Terre. Hein. C'est 65 000 km de montagnes et de volcans qui parcourent tous les océans. Et puis, on en trouve aussi ailleurs avec d'autres sources de chaleur qui sont, on va dire, des sources peut-être chimiques comme certaines roches qui ont encore un peu de chaleur rémanente qui vont faire circuler un petit peu de cette eau, donc à moindre température.
Donc, la vie d'une cheminée hydrothermale est comptée, enfin, c'est pas censé rester très longtemps, en fait.
Alors, elle est comptée d'une certaine manière pour plusieurs, on va dire, deux facteurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des échelles de temps qu'on appelle géologiques. Donc, pour nous, c'est très long. Mais à l'échelle géologique, on va dire que son temps est compté. Donc, pour les deux facteurs que je mentionnais, le premier, c'est que les dorsales océaniques s'écartent. C'est là où on va créer la nouvelle croûte océanique. Donc, de fait, la cheminée va être transportée petit à petit loin de l'axe. Et chemin faisant, elle va perdre sa source de chaleur et décliner. La deuxième raison, c'est qu'il peut y avoir des événements disruptifs, comme des séismes.
Éruptifs,
exactement. Donc, des énormes éruptions volcaniques ou des séismes qui vont totalement détruire l'environnement autour, incluant les cheminées hydrothermales.
Et parenthèse, la cheminée hydrothermale, c'est toujours sous la mer. Enfin, il n'y a pas des cheminées hydrothermales de lacs ou je ne sais
Alors,
pas.
Alors, si.
Ah bon, d'accord.
Voilà.
Très bien.
Non, mais c'est, non, mais c'est une bonne question. Il y en a même à terre, il y en a même qu'on connaît, hein, parce que c'est presque un même processus qu'on peut imaginer dans les sources chaudes. Donc, des sources naturelles d'eau chaude.
Genre geyser ou.
Genre geyser, genre balnéothérapie, enfin n'importe quelle source qui est chauffée naturellement par la géothermie de la Terre peut être associée à hydrothermale qui. Du grec hydro, eau, et thermal, chaud. Maintenant, à terre, on imagine En Europe, on a les champs phlégréens qui sont autour de Naples, un super volcan,
oui,
avec beaucoup de cette activité. Et on pense évidemment au Yellowstone, à terre. Mmh. Et puis dans les lacs, enfin, oui, il y en a au fond des lacs. Il peut s'en trouver, notamment par exemple en Islande, qui est une terre volcanique très riche. Donc beaucoup de ces sources-là.
Alors, les cheminées hydrothermales que vous avez découvertes avec votre équipe dans le Pacifique, elles sont cinq, c'est ça ? Enfin, à quoi elles ressemblent ? Elles sont côte à côte ? Enfin, vous pouvez nous décrire ?
Oui, alors je peux vous décrire. Alors, il faut savoir que ce site dans le Pacifique, on l'appelle 9 degrés 50, c'est la latitude à laquelle il se trouve sur cette dorsale. C'est le site historique, c'est là où on a le plus de données, c'est là où on a découvert au final ces sources chaudes, donc les fumeurs noirs. Et donc ça fait 35 ans qu'on y va plutôt régulièrement et on va toujours au même endroit pour suivre l'évolution de ces systèmes.
Les donc nouvelles... il y en avait déjà sur
voilà,
place.
Voilà, il y en avait, okay. Effectivement, on connaissait déjà, on y allait depuis un paquet d'années pour regarder les différents écosystèmes, mesurer certains paramètres physiques, et faire ça dans le temps pour voir l'évolution du système. Et donc, la dernière fois qu'on y était...
C'était quand d'ailleurs ?
C'était donc l'année dernière, exactement pile un an. Exactement, ouais. On y est retourné et puis on s'est un petit peu éloigné.
Vous êtes promené autour ?
On s'est un peu promené
autour. Sous-marin, hein,
en sous-marin, exactement.
Petit sous-marin d'observation.
Et exactement, voilà, c'est un petit sous-marin, on est trois dedans. Et en s'éloignant un petit peu, et pas énormément, hein, on a découvert ces nouveaux systèmes de sortie de fluide. Donc encore une fois, on peut imaginer, on se balade au niveau de la fracture de cette dorsale, hein, donc comme une petite vallée au milieu de cette chaîne de montagnes. Et au milieu, on imagine ces grandes cheminées qui crachent ce fluide noir. Et donc, on en a découvert cinq sur différentes plongées et en utilisant différentes techniques. On pourra être amené d'en parler. Et ces cinq cheminées étaient plus au nord que la zone historique. Voilà.
Et proches les unes des autres, et à peu près quoi.
Deux, alors on va dire par petites grappes. Deux étaient assez proches, et puis enfin, les trois autres étaient quand même plus éloignés de plusieurs kilomètres. Voilà. Donc plusieurs kilomètres en sous-marin, ça prend du temps, c'est plusieurs plongées.
C'est ça, parce qu'en fait, il faut nous expliquer comment vous faites ces prospections. Un peu d'aventure scientifique, c'est
voilà,
bien aussi.
Un peu d'aventure. Donc généralement, on plonge dans des endroits que l'on connaît, dont on maîtrise au moins la topographie, dont on connaît, si vous voulez,
le relief.
Ouais. Effectivement, ouais. Donc on a des très bonnes cartes bathymétriques, parfois avec des bonnes résolutions, hein, donc presque parfois aussi bonnes que ce qu'on pourrait avoir avec le téléphone quand on regarde le GPS. Maintenant, il y a d'autres endroits non. Donc, on commence toujours par envoyer un robot qui est autonome.
Drone.
Un drone, ouais. Voilà. Dans ce cas-là, il s'appelle Sentry. On l'envoie cartographier la zone à très haute résolution. Donc, c'est ce qu'on a fait dans ce cas-là.
Donc, ça lui prend...
Ça lui prend une nuit pour faire une boîte. C'est pas une grosse boîte. Donc, on fait des petites boîtes de haute résolution qui sont kilométriques. Et donc, c'est son travail de nuit. C'est lui qui travaille la nuit. Tout seul, il y va et cartographie. Le matin, on récupère les données. On regarde la nouvelle carte et on identifie des structures géologiques, des petits monts, est-ce qu'on voit des failles, est-ce qu'on voit ce genre de choses. Et il a aussi toute une sorte de capteur chimique avec lui, donc il peut mesurer la température de l'eau, mais aussi les différentes espèces chimiques dans l'eau.
Oui, parce que dans l'équipe, il y a des géophysiciens comme vous, des chimistes et des biologistes.
C'est ça, on est des équipes vraiment pluridisciplinaires. On a même, pour la petite histoire, maintenant une résidence artistique, donc on embarque tout un type, plusieurs disciplines. On travaille tous ensemble. Et donc, on regarde ces cartes d'anomalies. Et à l'endroit où on voit qu'il y a une anomalie bathymétrique, donc topographique, donc comme un petit mont ou une petite cheminée, et qu'en plus, par-dessus, on voit une anomalie chimique et de température, on se dit, tiens, c'est une bonne cible. Il doit y avoir quelque chose.
Ah ouais,
et c'est ce qu'on avait vu. Dans ce cas-là, oui.
Vous ne vous promenez pas sur l'océan en train de regarder s'il y a des fumées qui...
Non.
Serait un peu long.
Alors, ça serait un peu long. Et pour donner un exemple à vos auditeurs et auditrices, il faut imaginer que lorsqu'on est à 2500 mètres de profondeur, hein, il fait nuit noire. Et avec les lampes du sous-marin, on voit à peu près à 5 mètres devant. Donc, il faut vous imaginer...
Oui, on voit rien, quoi.
On voit rien. Ouais. C'est comme si vous y étiez... suspendu un hélicoptère avec une lampe torche au milieu des Alpes, de nuit, et que vous essayez de trouver le chalet. Voilà, c'est vraiment ça.
C'est une bonne image.
Donc, on peut y passer un moment.
C'est ça.
Donc voilà, on s'aide de tous les outils qu'on a pour essayer de découvrir ces sources. Ouais.
Et vous, en l'occurrence, vos 5 sources, vous les avez trouvées assez vite, vous étiez assez content
Alors, on avait repéré des candidats potentiels avec sur ces cartes, avec ces anomalies, on va dire plusieurs. Certains, on était confiants que c'était actif, d'autres, non. Et ensuite, en plongeant directement, on a un bon positionnement du sous-marin. On sait à peu près où on est par rapport au bateau et par rapport à la carte, ce qui nous permet de les trouver assez rapidement. Alors, le « assez rapidement », ça peut être quand même plusieurs heures.
Ouais, mais bon, ça va, ça se compte pas en jours ou
non,
en semaines.
Voilà. Non, exactement. Et puis généralement, c'est le temps d'une plongée. Une plongée, c'est à peu près 9 heures. Il faut compter 1h30 de descente, 1h30 de montée, ce qui laisse peu de temps pour travailler sur le fond.
Ouais, parce que vous pouvez pas passer la nuit au fond, c'est pas possible.
Non, pour des questions de sécurité, on peut pas. Il y a ce qu'il faut, si dans le cas où il faudrait. Mais on part au lever du soleil, on va dire, et on revient avant le coucher du soleil.
Ouais, il faut que votre sous-marin soit à peu près visible.
Toujours, voilà.
Et que faites-vous quand vous avez découvert une cheminée ?
Alors, les premières choses qu'on fait, c'est de l'imagerie. Donc, on fait le tour, généralement, des 360 pour imager la structure, pour essayer de voir son étendue, si elle est vraiment focalisée à l'endroit où on voit la principale structure, ou si, un petit peu autour, il y aurait aussi des petites cheminées ou autres. Ça nous permet aussi d'imager la biodiversité associée à cette cheminée-là. Ça, c'est assez important.
Ah oui, on peut la voir.
On peut la voir. Donc, la macrofaune, oui. Ce que vous pouvez voir, ce sont des riftias, ces espèces de vers géants qui sont blancs et rouges. On peut voir aussi des anémones, on peut voir des moules, des crabes. Donc, toute cette faune qui est plutôt assez grande.
Qui sont sur les parois plutôt
Qui
ou
sont
un
sur
peu
les parois, un petit peu autour. Alors, ils aiment l'eau chaude et parce qu'elle est chargée aussi d'éléments et c'est parce que c'est là qu'il y a aussi les bactéries qui vont convertir cette énergie en, j'ai envie de dire, en... Enfin, c'est la base de la chaîne trophique au final.
En donc, nourriture
cette énergie chimique en énergie pour la vie. Mais ils n'aiment pas non plus les températures trop chaudes.
Ah oui. Mmh.
Donc ils se mettent là où, on va dire, c'est à peu près entre 10 et 50 degrés. Voilà.
Vous photographiez, enfin, les voilà, biologistes, j'imagine.
On prend les images et ensuite on fait des mesures. On mesure la température des fluides, on va prendre des échantillons. On va prendre des échantillons de la structure, donc des bouts de cheminée. On peut aussi prendre des échantillons biologiques de certaines espèces. On va prendre des échantillons d'eau, de ce fluide qui sort. On va le capturer dans une seringue pour analyser la composition de ce fluide. Donc on va faire toutes ces mesures. Donc pour toute la communauté scientifique à bord du bateau, donc des chimistes, des physiciens, des biologistes et des géologues. Et ça nous prend du temps. Et parfois, on déploie des instruments qui, eux, ont vocation à rester là. Parce que nous, on ne peut pas. Donc, on laisse certains instruments qui sont un peu nos yeux et nos oreilles pour parfois des durées d'1, voire 2 ans.
Et que vous venez récupérer après.
Et qu'on vient récupérer après, effectivement, oui.
Alors vous, vous êtes Thibaut Barrière, vous êtes géophysicien, donc vous votre sujet, entre guillemets, c'est l'énergie, c'est ça? Qu'est-ce que vous étudiez particulièrement?
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de quantifier l'énergie qui va passer à travers ce milieu, qui est en fait une interface entre la Terre profonde, donc une Terre qu'on peut imaginer avec ses manteaux et ses noyaux très chauds, hein, on le voit avec ces volcans qui sont des liens directs entre la Terre profonde et les enveloppes superficielles, et l'océan qui est dessus. Donc cette interface-là, il va y avoir des énormes échanges de chaleur, d'éléments chimiques et de flux de matière. Donc ça, c'est le cœur de ma recherche, c'est de quantifier ça et de voir dans le temps comment ça évolue, comment ça impacte les écosystèmes et comment ça peut aussi impacter au final la composition de l'océan, la composition de la croûte et le refroidissement de cette partie-là de la Terre.
Alors en filigrane, on a déjà un petit peu abordé la question de... Quel est l'intérêt des cheminées hydrothermales? Enfin, quel est leur rôle? Je ne sais pas si on peut leur donner une fonction.
Elles ont une petite fonction. Si, elles ont une fonction qu'on pourrait qualifier d'interface énergétique d'une certaine manière. Et puis, en fait, elles sont quand même à l'origine d'une des plus grandes découvertes biologiques du XXe siècle. Hein. C'est de dire que la vie peut exister dans un endroit sans lumière, sans photosynthèse. Et ça, ça a été une révolution. Voilà, jusqu'à...
Ah, on le sait depuis combien de temps,
ouais. Bah, jusqu'aux années 1977, quand il y a eu la première découverte, bah, on était quand même plutôt sur l'idée que la vie dans le fond de l'océan était nulle, voire bon, très peu, peut-être des espèces qui descendaient et qui devaient remonter, mais que tout était plutôt en surface et lié à cette chaîne trophique qu'on connaît avec le, bah, les végétaux, puis animaux et nous, ou le plancton, et voilà. Donc ça, ça a été une grande révolution. Et ensuite, on a découvert cet autre mécanisme, donc la photosynthèse qui convertit, on va dire, l'énergie ou la lumière du soleil en énergie. Ici, on s'est aperçu que des éléments chimiques sans lumière peuvent être convertis eux aussi en énergie et former la base d'une nouvelle chaîne trophique.
Ça s'appelle quoi ? Chimiosynthèse ?
Chimiosynthèse, ouais. Exactement.
Et il n'y a que les sources hydrothermales qui peuvent permettre la vie dans le fond des océans ?
Alors, c'est, les sources hydrothermales sont vraiment des oasis de vie. Donc, si vous allez sur Internet et regardez quelques images, c'est une vie foisonnante. Donc là, on est vraiment au mètre carré, d'énormes quantités d'espèces, une variété assez impressionnante.
Alors, vous n'êtes pas biologiste, mais vous nous avez parlé de quelques espèces déjà.
Oui, voilà. Alors, les Riftia, bah, c'est caractéristique du Pacifique, qui sont, oui, ces vers géants. Il y a aussi...
Pas géant, c'est grand comment,
ouais. Bah, géant, alors, il faut imaginer comme ça peut être 1m50.
Ah,
hein,
oui, quand même. Oui, oui,
oui. Donc, c'est...
Bah, c'est plus gros qu'un ver de terre, quoi.
Voilà. C'est plus, okay, gros, c'est plus gros qu'un ver de terre.
On n'est pas encore dans Dune, mais...
Non, exactement.
Voilà. On ne chevauche pas les vers géants des...
Non, mais ils sont aussi étranges. Hein. Mm-hmm. C'est sur des espèces... Ah ouais. Ouais, c'est des espèces qui sont assez extraordinaires quand même.
Et ils se déplacent ou ils sont enracinés dans la...
Alors, bah, ça va dépendre de certaines espèces. Donc ces vers-là, eux, sont plutôt fixés. Ouais. Même s'ils ont une capacité à se mouvoir qui est minime. Mais d'autres espèces sont, elles, par contre, très mobiles et vont pouvoir aller différentes parties de la source hydrothermale. Donc, je pense aux crabes, par exemple. Donc, il y a des crabes qui vivent là et qu'on ne trouve que là. Ça peut être aussi des crevettes. Donc voilà, ah ce, ouais, type de vie est beaucoup plus mobile.
Et puis des micro-organismes.
Et les fameux micro-organismes, les tapis microbactériens, qui sont des colonies de microbes et de bactéries qui vont, elles, avoir cette capacité de se nourrir de ces éléments chimiques et d'en faire de l'énergie. Et on les voit comme des tapis plutôt blancs, donc assez poilus et blancs. Voilà, comme une tapis ou un bout des moquettes que vous pouvez voir blanc.
Un genre de moisissure, si on veut. Quoi.
Voilà, un genre de... C'est ça.
Et des végétaux, enfin, c'est ce dont vous parlez, ça, c'est plutôt des animaux des...
Non, là, on est plutôt sur la vie animale, hein, pour tout ce qui est là. Après, il y a de la vie...
Il y a des champignons aussi, en fond. Non, dans les sourcils. Ça,
je ne peux pas vous dire. Non, voilà, là, je vais... Je vous référerai à mes collègues.
Et c'est sur quelle surface la vie autour d'une source hydrothermale ? Enfin,
alors c'est assez localisé, donc c'est vraiment là où vous avez ces sorties chaudes. Voilà, parce que c'est là où il y a ces éléments chimiques, cette nourriture-là. Et donc très rapidement, quand vous vous éloignez de ces sources hydrothermales, vous allez retomber plutôt dans le type de choses qu'on peut imaginer dans les abysses, c'est-à-dire un peu de vie, mais vraiment moins foisonnante. Et maintenant, l'autre chose qui est important à savoir sur l'importance de ces sources et pourquoi en découvrir de nouvelles est aussi important, parce que 60% des espèces qu'on trouve sur une source est vraiment endémique, c'est-à-dire qu'on ne les retrouve pas sur une autre ou ailleurs. Donc
c'était une de mes questions. Voilà. Aucune cheminée hydrothermale n'est pareille à l'autre, en fait.
Non, alors on pense qu'il y a une grande diversité de ces sources. Donc ce qui est le même, c'est les processus physiques. On parle toujours d'une eau chaude qui circule dans la croûte, qui va transporter de la chaleur, de la chimie. Donc tout ça, on peut l'expliquer, si vous voulez, avec les mêmes équations, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais ensuite, l'expression de cette physique au niveau du plancher océanique est différente.
Ah oui.
Et du coup, la vie qui en découle, elle aussi. Mm-hmm. Et donc la chimie de ces écosystèmes, donc la chimie de ces fluides, va aussi être différente.
Et quand vous dites l'expression, c'est quoi ? C'est le relief que ça génère ? C'est le...
Ça peut être des formes différentes, des formes de cheminées différentes,
ah oui,
de la couleur de ces fluides différentes, de la vie différente, et du coup, une vie qui a une couleur aussi. Donc ça peut vraiment être une photographie de ces sites qui va être totalement différente en fonction de si vous regardez un site dans le Pacifique ou un site dans l'Arctique, par exemple.
Et il y en a partout potentiellement des cheminées hydrothermales. Est-ce qu'on sait que même, est-ce qu'on a une idée de combien pourrait y en avoir ? Enfin...
Alors, on sait qu'on en a trouvé un peu plus, on va dire, vu caractérisé au niveau du plancher océanique, plus d'une centaine. On sait qu'on a du signal pour à peu près, on va dire, entre 200 et 500 autres. Mmh. Mais on sait qu'il en faut beaucoup plus pour expliquer cet transfert d'énergie de la Terre qu'on arrive à quantifier. Il en faudrait, je ne sais pas, quelque chose comme autour d'un ordre de grandeur de plusieurs milliers, donc 2000. Donc potentiellement, on peut imaginer qu'il y en a absolument partout, hein, une ubiquité de ces sources tout le long de la dorsale. Et donc cette dorsale va de l'Arctique à l'Antarctique en passant par tous les océans. Donc potentiellement, oui. Oui,
bon,
oui.
On n'a pas besoin de toutes les connaître, mais bon, enfin...
Alors voilà, non, on n'a pas besoin peut-être de toutes les connaître, surtout que bah, on a un impact à l'étude. Mmh. Donc il est important aussi de mesurer la manière dont on fait notre recherche, de savoir ce qu'il est important de continuer à connaître et ce qu'on peut, si vous voulez, comment dire, comprendre sans forcément aller là-bas et prélever, c'est sûr.
Là, vos études des cinq sources, des cinq cheminées du Pacifique, elles vont prendre combien de temps
Bah, ça va prendre un moment. Alors nous, vous voyez, entre le moment où on collecte ces échantillons, le moment où on revient, où il va falloir faire les analyses en laboratoire, généralement, ce sont aussi des données qui sont des bases pour des sujets de thèse, donc pour des étudiantes et des étudiants qui vont travailler dessus pendant 3 ans. On peut imaginer qu'entre le moment où on a eu les données et le moment où on va publier, donc pour nous en science, ça veut dire rendre nos résultats accessibles au plus grand nombre. On est sur des moyennes de 2 ans, je dirais. Oui. Maintenant, on communique avant. Donc, au bout d'un an, on aura déjà des premiers résultats. Voilà.
Ben là, ça fait un an, vous disiez, mais vous ne pouvez pas me dire, enfin, est-ce qu'elles ont quelque chose de surprenant?
Alors, elles sont, dont une d'entre elles, oui. Elle a un fluide qui est plus lourd que celui de l'eau de mer. Donc, lorsque le fluide va sortir de cette cheminée hydrothermale, il est chaud et tout fluide chaud normalement veut monter parce qu'il est moins dense.
Ouais.
Mais celui-là est tellement dense qu'il va rester, si vous voulez, concentré autour de cette structure, voire tomber.
Cool.
D'une certaine manière.
Comme
donc ça va faire comme un, ça fait comme un petit lac au fond de l'océan de fumée noire. Et ça, je m'en souviens, c'est une des sources que moi, j'étais dans le sous-marin quand on l'a trouvé et on ne voyait plus rien. On était complètement dans ce nuage noir et on n'arrivait pas à trouver la source de ce fluide.
Ouais,
exactement, parce qu'on était complètement perdu dedans. Et en dépassant, en prenant de l'altitude, on a percé ce nuage et on a pu voir le sommet du château d'une certaine manière qui crachait ce fluide qui lui reste vraiment assez dense.
Donc c'était quand même un peu gazeux entre guillemets, enfin, c'est ça,
imaginer comme de la fumée.
Ouais.
C'est vraiment de la fumée, ouais.
Et alors on parlait aussi d'éléments chimiques même si vous n'êtes pas chimiste, mais peut-être qu'on peut en arriver aussi à un autre intérêt des sources hydrothermales, leur exploitation entre guillemets, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Alors, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que les sources hydrothermales sont une des 3 ressources identifiées dont on entend actuellement dans les médias. Donc, il y a les nodules dont on parle, il y a les sources hydrothermales et la 3e, ce sont les monts sous-marins de manganèse. Donc, pourquoi les sources hydrothermales? Parce qu'elles referment certaines différents métaux, comme le cuivre, aussi des terres rares. Donc, beaucoup de choses qui sont en ce moment utilisées dans de l'électronique ou autre. Donc, c'est pour ça qu'on commence à en parler.
Ils sont plutôt dans le fluide ou ils sont plutôt dans le monticule?
Alors, en fait, ils sont dans le fluide de base parce qu'ils sont extraits de la croûte terrestre par le fluide. Donc, le vecteur est le fluide. Maintenant, le fluide va précipiter pour former ces monticules. Et donc, c'est là qu'on trouve ces minéraux dans ces monticules.
Et il y a des cheminées hydrothermales qui sont exploitées, entre guillemets, même à titre expérimental?
Non, pas encore. Pas de cheminées actives. Maintenant, il y a des pays qui se positionnent quand même clairement sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cheminées ont une grande diversité. Donc, autant vous pourrez trouver un petit peu de minéraux sur quelques cheminées, autant sur d'autres, elles en sont totalement dépourvues.
Eh oui.
Donc,
c'est peut-être pas intéressant.
Exactement. Donc, importance de faire de la recherche fondamentale en amont, et peut-être d'en découvrir et de comprendre cette diversité-là.
Mais exploiter une cheminée hydrothermale, ça voudrait dire la détruire quand même. On ne pourrait pas...
Moi, c'est comme ça que je le comprends. Miner ou exploiter une cheminée hydrothermale, ça veut dire prélever les minéraux et prélever les minéraux, détruire donc cette substrat-là et donc l'écosystème qui est autour. Mmh. Voilà. Maintenant, les cheminées actives, donc il y a eu une féroce bataille, on va dire, de plusieurs ONG, de scientifiques pour avoir un moratoire sur ces cheminées actives. Et donc, en ce moment, il n'y a aucune exploitation sur ces cheminées actives. Et j'espère que ça va rester... que ça restera comme ça, ouais.
Ouais, que la recherche va pouvoir continuer, ça c'est sûr. Ben oui. Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres programmes qui sont en cours, que vous, vous continuez aussi.
Exactement.
Vous explorez les mêmes ou d'autres endroits?
Ben alors, moi personnellement, on continue à explorer un petit peu les mêmes pour faire de l'observation sur le long terme, mais j'ai aussi d'autres projets sur d'autres océans qui sont différents, ouais.
Et juste une toute petite parenthèse sur la biologie de ces... Enfin, ce sont des milieux absolument extrêmes. Et donc, est-ce que vous travaillez avec des exobiologistes, enfin, des gens qui travaillent sur la vie dans l'espace, enfin, dans d'autres...
Ouais, alors effectivement, on a pas mal de points d'accord avec les... par exemple, je pense à la NASA ou à l'ESA, donc à certains laboratoires avec qui on développe différents types de capteurs qui vont nous permettre, qu'on peut tester sur notre planète... pour voir déjà si ça marche. Et ce sont les mêmes capteurs qu'on espère envoyer sur les lunes. On pense à Europe et Ganymède, sous la glace, où on aurait ce type de vie.
De Jupiter, c'est ça ?
Exactement, oui.
Eh ben, merci beaucoup Thibaut Barrère. On va pouvoir écouter cette passionnante émission sur le site internet de Transistor, avec toutes les autres émissions scientifiques.
Je vous remercie, bonne journée.